Et salut tout le monde, on est bien sur Radio Klaxon, on est le samedi 21 octobre 2016, sur la ZAD, tout va bien, et ailleurs, non plus. On a aujourd'hui deux personnes invitées dans le studio. Ces deux personnes vont nous parler de quoi allez-vous donc nous parler, les deux personnes? Salut.
Alors on voulait profiter de Radio Klaxon pour aborder le sujet de l'écologie politique et pour parler de ce sujet, de cette thématique qui nous touche toutes et tous dans nos luttes, dans nos préoccupations. On souhaitait inviter Jean-Baptiste Combi qui a mené des recherches et a écrit un livre sur le sujet qu'il est déjà venu présenter. Et on s'était dit que de pouvoir en faire une chronique, en fait, une chronique d'écologie politique sur Radio Klaxon, ça pouvait être une occasion d'avoir un autre support qui pourrait toucher plus largement par différents biais d'autres personnes, en fait, et lancer discussions et débats, que ça soit ici ou ailleurs. Dans l'idée, ça serait de... Est-ce que tu peux commencer par nous présenter, en fait, globalement, le propos de ton livre, qui s'appelle, je répète, la question climatique, genèse et dépolitisation d'un problème public.
Yes. Salut tout le monde. Ben, effectivement, c'est la deuxième fois que je viens de parler de ce travail sur la zone, et c'est toujours très chouette. La première discussion, c'était au début de l'été, et ça avait pas mal stimulant, vif, et voilà, du coup, d'où l'idée de poursuivre cette réflexion, quoi, de réfléchir sur cette écologie politique. Alors, écologie politique, peut-être déjà préciser, parce que c'est pas l'écologie des politiques, des partis politiques ou des hommes politiques, l'écologie politique. Je pense que ce qu'on entend par écologie politique, c'est une écologie qui... porte en elle très fortement une remise en cause radicale du monde social, de la façon dont l'ordre établi détruit sans trop de pitié les écosystèmes naturels, l'environnement, quoi. Donc c'est l'écologie politique au sens plutôt d'idéologie révolutionnaire et non pas l'écologie politique des partis politiques, quoi. Je pense que c'est important de le préciser parce qu'il y a souvent l'ambiguïté sur ce concept-là. Et du coup, moi, mon travail, en fait, ça a été d'interroger... la question climatique, c'est-à-dire la prise en charge par les médias et l'État en particulier de ce problème climatique, et à travers ça, d'interroger plus largement ce que devient effectivement l'écologie politique aujourd'hui, qui donc a été complètement diluée depuis une bonne vingtaine d'années, voire même depuis plus longtemps. En fait, du coup, d'interroger les questions environnementales au prisme des rapports de pouvoir et des rapports de classe, ce qui est rarement fait. Et en fait, en faisant ça, on s'aperçoit que l'écologie mainstream, l'écologie dominante, officielle, aujourd'hui, bah, c'est une écologie qui est bourgeoise, qui véhicule et qui s'intègre parfaitement à la morale bourgeoise. Et du coup, en regardant très précisément, minutieusement et patiemment comment cette histoire climatique est devenue une histoire un peu vendeuse, dont tout le monde parle, etc., ce que j'ai essayé de comprendre, c'est comment, en fait, concrètement, un certain nombre d'acteurs, d'agents ont dépolitisé l'écologie, en particulier le climat, en faisant quelque chose de parfaitement compatible avec l'ordre établi. Alors que la question climatique, au départ, frontalement, elle est potentiellement révolutionnaire, dans le sens où elle interroge au départ vraiment l'organisation des modes de production, des modes de vie, l'organisation dominante des modes de production et des modes de vie, puisque... En fait, au départ, peut-être pour resituer, ce qui pose problème, c'est l'accélération et l'amplification des émissions de gaz à effet de serre. Et cette accélération et cette amplification des émissions de gaz à effet de serre, elle est directement liée à l'organisation sociale, à la façon dont on vit, dont on produit, dont on consomme, et à la façon dont tout ça est organisé politiquement. Et donc le problème climatique, si on veut le prendre au sérieux, ça implique de remettre en cause profondément toute cette organisation. Et du coup, l'énigme que j'essaie de résoudre, c'est comment c'est devenu un problème très important pour tout le monde, y compris pour les élites, sans remettre en cause l'ordre social qui font qu'elles sont dominantes, ces élites. Enfin, qui font qu'elles sont des élites, quoi. Je ne sais pas si je suis très clair.
Donc là, c'est le fil rouge et la base du questionnement qui guide tout ton travail. C'est comment une prise en compte réelle de l'enjeu climatique devrait mener à une remise en question de l'ordre établi. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu entends par ordre établi? Est-ce qu'on parle de nos sociétés industrielles capitalistes? Est-ce qu'on peut avoir plus de détails?
On parle effectivement des sociétés marchandes, industrielles, financiarisées, capitalistes. Mais c'est aussi penser le capitalisme, pas seulement comme un mode de fonctionnement économique, comme on a tendance à le réduire, mais aussi comme quelque chose qui véhicule tout un tas de valeurs, de principes moraux, par exemple, le fait de la mobilité, l'hypermobilité, la rapidité, un rapport accéléré à la vie, enfin, le fait que tout doit s'accélérer, aller plus vite, hein, l'immédiateté. Le principe d'abondance, bien sûr, matériel. Donc tout un tas comme ça de valeurs, en fait, qui sont... qui viennent légitimer insensiblement et quotidiennement cet ordre établi, donc c'est-à-dire comment le marché du travail, les modes de transport, l'aménagement du territoire, le marché scolaire, comment en fait toutes ces structures sociales-là, hein, marché scolaire, même la famille, c'est une structure sociale aussi, enfin, comment tout ça est organisé conformément aux attendus capitalistes. Voilà, c'est ça que j'entends par ordre établi, est-ce que c'est plus clair ?
C'est quoi que tu appelles marché scolaire ? Ça m'interroge ce terme.
Le marché scolaire, c'est comment fonctionne l'école, et puis ensuite l'enseignement supérieur, par exemple, et comment il sélectionne les individus. Une des bases du fonctionnement du marché scolaire capitaliste, c'est de transformer ceux qui héritent en ceux qui méritent. C'est-à-dire que c'est l'idée que ça s'appuie sur vraiment, c'est un lieu de consécration de l'idéologie méritocratique. C'est-à-dire que si tu veux, tu peux. Voilà, si tu te donnes la peine, tu pourras, et si tu n'y arrives pas, bah, si tu t'es pas donné la peine, quoi. On peut aussi, au lieu de dire si tu veux, tu peux, on pourrait aussi imaginer que si tu peux, tu veux. Mais ça serait justement défaire l'idéologie méritocratique, du mérite, qui est propre à l'institution scolaire, quoi.
Et on retrouve cette même logique au niveau de l'écologie, où en fait on individualise les causes et les conséquences des problèmes climatiques. Et on responsabilise les individus par rapport à ce qui se passe actuellement. Ouais. C'est un peu ça que tu essayes de...
Voilà, en fait, ce que j'ai observé, c'est que l'écologie, dans sa version mainstream dominante, est devenue une affaire de morale individuelle. C'est, chacun, au quotidien, on doit prendre en main l'avenir de la planète. Et cette individualisation... d'en faire quelque chose de quotidien, dans la sphère privée, chaque petit geste qu'on fait devrait être éco-vertueux, etc. Ça, c'est une morale, une individualisation qui est moralisatrice. En fait, c'est de s'apercevoir, et ça sera peut-être le propos plus sur la fin de cette émission ou de cette série d'émissions, de voir que cette individualisation, c'est un pilier central de l'idéologie néolibérale, du néolibéralisme et donc de l'ordre établi capitaliste, hein, central. Mais là où il y a une question, à mon avis, qui pose débat, c'est qu'on la retrouve aussi beaucoup dans beaucoup de mouvements et courants écologistes. Et du coup, c'est d'essayer de s'interroger là-dessus, parce qu'il y a une espèce de flou là, idéologique qui mérite d'être clarifié, en tout cas discuté. Dernier point, peut-être aussi en introduction, c'est qu'avec ce travail-là, j'essaye de faire quelque chose qui, à mon avis, n'est pas suffisamment fait, c'est de relier la question sociale, la question des inégalités sociales, des rapports entre les classes sociales, des rapports de lutte entre les classes sociales, et la question écologique. Et je pense qu'on parle beaucoup de convergence des luttes, et en fait, sans vraiment avoir... je pense, pris toute la mesure des enjeux de l'articulation entre question sociale, c'est-à-dire question des luttes sociales, et la question de l'écologie, la question écologique.
Est-ce que tu peux nous présenter en fait les conclusions à laquelle tu arrives partant de ce questionnement et les différentes étapes de ton raisonnement qui rejoignent en fait l'étude de l'ensemble des acteurs qui contribuent à cette dépolitisation de la question écologique?
Ouais. Donc le principal résultat, c'est de comprendre quels sont les mécanismes sociaux, les logiques, quoi, qui dépolitisent la question climatique, qui en font c'est-à-dire qui l'aseptisent, qui en font quelque chose de parfaitement lissé idéologiquement, de parfaitement conforme avec la façon de penser des dominants, des classes bourgeoises. Et donc, et le pilier de ça, donc, c'est l'individualisation. Donc, du coup, j'ai regardé comment s'est développé tout un discours extrêmement présent, extrêmement aussi nocif que qu'omniprésent, qui consiste à faire de l'environnement, de l'écologie, une affaire individuelle. Et donc, il y a un certain nombre d'acteurs qui jouent depuis petite vingtaine d'années un rôle majeur là-dedans. Il y a évidemment l'État. Et je pense qu'on va commencer peut-être par parler de l'État. Mais il y a aussi, on en parlera ensuite, les journalistes, et notamment les journalistes, pas tous les journalistes, hein, mais les journalistes des médias généralistes, des médias nationaux, ou des médias locaux importants qui sont en charge de l'environnement, eux aussi participent pleinement et, voilà, de ce travail-là de dépolitisation. Et puis ensuite, alors on en dira un mot, les experts et les scientifiques des climats, la grande majorité d'entre eux, et puis un certain nombre d'experts aussi qui travaillent avec l'État et les journalistes. On pourra ensuite, avant d'en venir au quatrième acteur, après l'État, les journalistes, les scientifiques et les experts, il y a les associations, mais avant peut-être de terminer, on pourra terminer sur les associations, parce que ça ouvre des questions qui nous intéressent peut-être plus ici. Ce sera intéressant de faire un détour par une partie du travail que j'ai fait pour voir comment les différentes classes sociales appréhendent cette morale éco-citoyenne. En fait. Et du coup, une fois qu'on aura ce qui nous permettra de montrer que cette morale éco-citoyenne, en fait, elle est parfaitement adaptée à la morale bourgeoise et du coup, elle entretient leur logique de domination. Dans un dernier temps, ça nous permettra de réfléchir sur comment éviter que le mouvement écologiste ne s'embourbe plus, pas plus, dans cette morale éco-citoyenne, parce qu'il y a des fois où, beaucoup je pense, de militants de l'écologie ont tendance, malgré eux, à faire de l'écologie une question de morale, une question individuelle, et même si ça ne correspond pas forcément à cette individualisation néolibérale, bon, il y a des fois où c'est un peu tangent et ça vaudra le coup peut-être d'en parler. Voilà.
Et avant de passer à l'acteur étatique, tu voulais nous faire écouter un enregistrement. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ?
Bah, du coup, c'est pour un peu planter le décor. C'est une compile qui a été réalisée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, qui est en fait le bras armé de l'État pour individualiser les problèmes environnementaux. Et c'est une compile de leurs spots publicitaires, donc des campagnes de communication de l'État, sur la maîtrise de l'énergie, les économies d'énergie et le climat. Depuis 1979. Donc là, ça va donner un aperçu un petit peu de comment tout ça a évolué et de voir que finalement, ça n'a pas tant évolué que ça et de voir où on en est aujourd'hui et comment aussi ce discours de la morale individuelle est assez inoxydable. Il traverse les bouleversements politiques et les décennies sans trop être modifié.
En 1974 de l'ère chrétienne, c'est la crise, monsieur Morand, le choc pétrolier. Le spectre de la pénurie d'énergie se met à flotter sur la Terre.
Encore froid ?
C'est juste.
Thé ?
Hubert, économisez votre énergie.
On n'a pas de pétrole, mais on a des idées.
Si vos pneus sont insuffisamment gonflés, voici ce qui se passe. Roulez gonflé. Vous économiserez votre énergie. Vous aussi, chassez le gaspillage. Accélérant et en freinant inutilement, vous dépensez votre énergie inutilement. Soyez régulier, vous irez plus loin. Vous aussi, chassez le gaspille.
Vous allez maintenant découvrir le dernier prototype, le modèle anti-gaspille. Formidable.
Avant, on avait tout. Tout. On s'est laissé vivre sur l'énergie, sans réfléchir. Pourtant, des solutions, il y en avait. Maîtriser l'énergie, pas si bête.
Voici une planète où chacun aspire à mieux vivre. L'énergie, ça compte, la nature aussi. L'une de ces deux maisons coûte chaque année 4000 francs de plus en énergie. Et trop cher à l'atmosphère. Maîtrise de l'énergie, les choix sont entre nos mains.
Qu'est-ce qu'un téléviseur qui reste en veille ? Une arme redoutable. Une arme qui tue les ours polaires. C'est inouï ce qu'une télé, même en veille, peut produire de CO2. Et trop de CO2, ça tue les ours. Et vos enfants, ils aiment les ours. Et puis ça vous coûte de l'argent toutes les nuits. La prochaine fois, une histoire affolante. La confrontation du robinet et de la tempête.
Éteignez vraiment votre télévision. Préservez votre argent, préservez votre planète.
Un robinet d'eau chaude qui permet de maîtriser la vitesse du vent. C'est totalement dingue, et c'est vrai. Plus on met d'eau chaude dans son bain, plus on produit de CO2. Et trop de CO2, ça déclenche les tempêtes. Les tempêtes, c'est calamiteux. Prenez plutôt des douches, ça réveille les douches. Ça me regarde pas, mais ça vous ferait économiser de l'argent.
Diminuez votre consommation d'eau chaude. Préservez votre argent, préservez votre planète.
Prendre les transports en commun. Pour les petits trajets, surtout pas sa voiture.
Il faut éteindre les lumières dès qu'on quitte une pièce.
Encore des mots.
Éteindre la télévision et ne pas la laisser en veilleuse, par exemple.
Et aussi diminuer la consommation d'eau chaude.
Il faut prendre des douches et pas des bains.
Rien que des mots.
Quand on veut aérer, c'est pas la peine de laisser le radiateur ouvert.
C'est pareil, les pièces qui sont pas occupées, ça sert à rien de les chauffer.
Pour économiser l'énergie, il faut plus que des mots. Il faut agir. Et tout de suite. La planète se réchauffe.
Faisons vite, ça chauffe.
Alors, on va reprendre. Je vous rappelle qu'on est sur Radio Klaxon, que nous avons deux invités. On parle de la question de l'écologie comme morale bourgeoise, pour résumer. Je prends pas trop de risques.
Justement, et par rapport à ce qu'on vient d'entendre, est-ce que tu peux nous expliquer à travers cette série d'extraits en fait de propagande, de sensibilisation ou de communication étatique, qu'est-ce qu'on vient d'entendre en fait, en quoi ça consiste et quelles sont les conséquences de ce genre de messages qui nous semblent pourtant quotidiens et anodins auxquels on se confronte en permanence, mais c'est dur de réaliser quel impact ça a au niveau de notre conception de l'environnement et de notre implication politique par rapport à l'environnement.
Oui, c'est-à-dire que ces messages, déjà en premier point, c'est qu'ils sont anciens, hein, ça date de la fin des années 70, et au départ c'était pour des questions d'autonomie énergétique. Il fallait économiser l'énergie pour pouvoir être indépendant dans un contexte de crise de choc pétrolier. Donc c'est la fameuse chasse au gaspillage, hein, qu'on connaît bien. Ici, en tout cas en France, parce que j'ai travaillé sur la France en particulier. Et donc cette chasse au gaspillage, en fait, elle va être reconvertie avec les mêmes mots MOTS, mais pour combattre différents mots MAUX. C'est-à-dire qu'on va non plus faire des économies d'énergie dans une perspective d'indépendance énergétique, mais simplement pour en faire un instrument pour, soi-disant, lutter contre le changement climatique et diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Donc, il y a eu un verdissement de ces messages qui visent effectivement à sensibiliser, à individualiser. Et on voit que c'est ancien. On voit que c'est ancien, mais depuis le milieu des années 2000, c'est devenu quelque chose de majeur dans la façon dont l'État gouverne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le gouvernement, c'est-à-dire la façon dont les lois sont produites, l'action publique, les politiques publiques sont construites, ça consiste à surtout gouverner les conduites individuelles, gouverner les comportements individuels. On le voit vrai sur les questions environnementales et climatiques, mais pensez aussi à la sécurité routière ou à la question de la santé publique, voire même à la question de l'économie et du chômage. Si on est au chômage, c'est notre faute. Et il faut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Il faut donc inciter les chômeurs à être moins feignants. Bon, sur la route, sur la question de la sécurité routière, il faut inciter les gens à être plus prudents, à moins picoler, etc. Bon, mais en matière environnementale, hein, on sait bien, il faut inciter les gens à acheter des produits économes en énergie, à trier leurs déchets, faire attention à ne pas éteindre les lumières, l'éveil, etc. Bon. Et en fait, tous ces messages-là, ils constituent non plus seulement de la communication d'État, mais c'est une politique publique à part entière. C'est le cœur de l'action de l'État. C'est une action incitative. C'est des politiques qui visent à inciter, à modifier les comportements, avec l'idée de modifier la demande pour modifier l'offre. Donc on est vraiment dans des raisonnements parfaitement marchands, liés au fonctionnement du marché économique, ajustés à ce mode-là. Mais aussi des messages qui jouent sur la psychologie, c'est-à-dire que tous les individus seraient les mêmes et devraient réagir à peu près de la même façon à ces messages-là. Donc il y a l'idée derrière d'une forme... Derrière, c'est une conception vraiment néolibérale de l'individu qui est en jeu et qui est valorisée derrière ça. C'est l'homo ecologicus. si l'individu est bien informé sur les bons comportements, qu'en plus on lui explique qu'il va peut-être gagner de l'argent avec ça via les crédits d'impôt, les prêts à taux zéro, etc., eh bien il va se comporter en citoyen raisonnable, rationnel, maître de ses actes, et il va permettre de résoudre ce problème climatique. En fait, il y a vraiment cette philosophie sociale derrière ces messages-là, qui consiste donc aussi à individualiser, à penser les individus comme indifférenciés. On serait tous les mêmes. Et donc ce point-là s'appuie, par exemple, sur une statistique qui a connu un âge d'or pendant plusieurs années, entre 2004 et 2007. Un chiffre qui était repris par tous les journalistes, par tous les spécialistes du climat, ceux qui étaient autorisés à parler dans les médias de la question climatique. Ce chiffre consistait à dire « les Français sont responsables de 50% des émissions de gaz à effet de serre ». Et donc ce chiffre très fort, qui n'a jamais été discuté, on ne s'est jamais intéressé à comment il avait été construit, a permis de justifier ces politiques incitatives, ces messages de sensibilisation qui donc ont donné lieu à une campagne d'État, une propagande d'État qui a duré 9 ans. C'était inédit, on n'a jamais vu ça dans l'histoire de la propagande d'État. Une campagne qui avait le même slogan, la même signature, qui était, vous l'avez peut-être entendu, « Économie d'énergie, faisons vite, ça chauffe ». Où donc, avec ce message, on avait à la fois l'enjeu économique, marchand, hein, économie d'énergie, et l'aspect écologique, climatique, faisons vite, ça chauffe, quoi.
Ce qu'on retrouve dans ton propos sur l'État, c'est qu'on assiste à une prise en charge de la question climatique par l'État. Est-ce que tu peux nous expliquer comment justement les décideurs politiques se sont saisis de cette question et comment ils ont fait pour éviter de parler des causes politiques et sociales des dérèglements climatiques pour basculer dans cette logique incitative? Comment ils ont fait pour éviter ou invisibiliser les causes des problèmes auxquels on se confronte?
Alors pour comprendre ça, il y a deux, trois points rapides à avoir en tête. Le premier, c'est que les enjeux climatiques, au départ, ils apparaissent au niveau international à la fin des années 80. C'est un problème qui est perçu comme un problème diplomatique. Hein, c'est Kyoto, le protocole de Kyoto, etc. Donc c'est perçu comme un problème pris en charge au niveau diplomatique international. Ça veut dire aussi que tous les acteurs, notamment en France, qui ont peu de moyens, le ministère de l'Environnement, c'est un ministère dominé, c'est un point très important, qui a peu de moyens. Du coup, le peu de moyens qu'ils ont, ils vont l'investir sur la scène internationale. C'est pour ça qu'ils s'occupent de la question climatique, finalement, assez tardivement, qu'à partir de 2004, pour être précis. Ils le font donc avec peu de moyens, puisque, encore une fois, le ministère de l'Environnement est dominé, il y a peu de personnel, il y a peu d'argent, il n'arrive pas à s'imposer sur les autres ministères. Et donc, il va mettre en avant l'idée qu'il faut d'abord sensibiliser les gens, parce que c'est le climat à ce moment-là, en 2004, c'est perçu comme un problème lointain, diffus, abstrait, lointain dans le temps et dans l'espace. C'est-à-dire que les conséquences seront dans plusieurs décennies, c'est ce qui est pensé à ce moment-là, et lointain dans l'espace, parce que les principaux pays concernés sont les pays les plus vulnérables, et les conséquences vont plutôt frapper d'abord des pays qui sont loin de la France, quoi, des zones géographiques loin de la France. Et donc, du coup, ils sont dans cette idée-là qu'il faut le rendre sensible. Il faut rendre sensible le problème climatique, il faut le rendre palpable. Donc, il faut le rendre sensible pour faire prendre conscience aux gouvernés de la nécessité d'agir. Et donc, c'est ce que moi, j'ai appelé la doxa sensibilisatrice. C'est quoi une doxa? C'est une croyance qui est indiscutée et indiscutable. Quelque chose qui s'impose et qu'on ne peut pas remettre en cause. Donc cette doxa, cette croyance indiscutable, elle va être focalisée sur la sensibilisation, aux deux sens du verbe sensibiliser, hein, rendre sensible, pour faire prendre conscience. Et du coup, il va y avoir ce leitmotiv là, qui va revenir et qui va s'imposer au sein de l'État. Et pour l'État, c'est très chouette parce que ça lui permet de faire de mettre en musique une politique publique qui coûte pas très cher, qui est pas très difficile à mettre en œuvre parce qu'elle perturbe aucun des intérêts économiques, politiques dominants. Du coup, ils vont investir massivement sur cette campagne de communication avec ces slogans dont on a eu un extrait, ces campagnes, ces spots publicitaires, quoi, cette propagande, mais aussi avec une très forte logique partenariale qui va permettre d'unifier tous les champs du pouvoir, tous les acteurs qui ont le pouvoir, pouvoir économique, pouvoir culturel et médiatique, pouvoir politique, vont, avec cette stratégie partenariale, se mettre derrière cette stratégie d'État qui vise cet effort national, qui est présenté comme un effort national qui vise à sensibiliser le plus grand nombre.
Donc on rendrait responsable l'individu des dérèglements climatiques au profit de tout le monde, sauf de l'individu en tant qu'individu politique.
Oui, c'est-à-dire que, alors d'une part, en mettant la focale sur l'individu, on fait du problème une affaire de morale individuelle qui concerne la sphère des comportements privés, du foyer à l'intérieur de la maison, essentiellement. Et du coup, ça épargne, ça met de côté toutes les critiques plus structurelles. C'est-à-dire tout ce qui remettrait en cause les modes de transport, hein, les modes d'habitat, la façon de la distribution, de la façon dont on distribue aussi les marchandises. Tout ce qui fait qu'on a des comportements qui sont irrémédiablement pollueurs et nocifs pour la planète, quoi. Donc on ne remet pas en cause les structures, les modes d'organisation collective qui sont à l'origine de nos comportements. On remet en cause nos comportements avec l'idée, on inverse la perspective, c'est en changeant nos comportements qu'on va changer les structures. Alors que dans une perspective beaucoup plus radicale et transformatrice, on aurait... Et qui correspond davantage à la façon dont les sciences sociales montrent que s'articulent l'individu et le collectif, c'est en modifiant d'abord l'organisation collective qu'on pourra modifier plus facilement les comportements individuels.
Dans ton propos, tu abordes aussi la question de la production d'une méconnaissance sociale, donc comment, l'État agit sur les individus pour rendre visibles et invisibles certaines choses qui vont dans son intérêt, comment il évite d'être remis en question en produisant ses visions du monde. Et tu parles aussi du rôle des statistiques. Les statistiques qui sont un outil très puissant de l'État depuis longtemps et qui sont sont utilisées en fait à cet effet.
Et oui, parce que pour pouvoir donc individualiser le problème, le dépolitiser et mettre l'accent mettre l'accent sur les comportements individuels pour détourner l'attention des logiques collectives et politiques, eh bien il faut passer sous silence le fait que les différentes classes sociales contribuent différemment au problème et donc faire en sorte que les individus soient perçus comme tous également responsables. Tous, ça concerne tout le monde, aussi dans une logique médiatique électorale du plus grand nombre. Bon, et du coup, d'où ce chiffre dont je parlais tout à l'heure, les Français sont responsables de 50% des émissions de gaz à effet de serre, ça permet d'invisibiliser, de passer sous silence le fait qu'en fait, ce sont les styles de vie bourgeois, les modes de vie bourgeois les plus dominants qui sont ceux qui émettent le plus de gaz à effet de serre. Et à l'inverse, plus on descend l'échelle sociale, plus on arrive vers les groupes sociaux démunis, défavorisés, plus on a des modes de vie qui, de toute façon, sont peu émetteurs de gaz à effet de serre, sont peu pollueurs. Et donc, tout le paradoxe, en fait, sur lequel on reviendra peut-être plus tard, est que cette morale individuelle, et je vais dire pourquoi dans un instant, cette morale individuelle, elle est construite, et tous ces slogans, ces messages de sensibilisation, des petits gestes, voilà ce qu'on écoutait tout à l'heure, parole, voilà, c'est bien de parler, mais il faut aussi agir, toute cette campagne de propagande, quand on la regarde de près, en fait, on voit qu'elle est très tendre avec les modes de vie bourgeois, alors qu'on pourrait se dire, si on veut changer le comportement, on va d'abord taper sur les comportements les plus pollueurs, quoi. En fait, non, ce n'est pas du tout ce qu'on fait. Sous prétexte de dire que ça doit concerner tout le monde. Donc, comment on fait? On met l'accent sur les petits gestes, justement, les gestes les plus partagés. Le fait de faire ses courses, le fait de se brosser les dents, d'éteindre les lumières. Donc, ces petits gestes, ils passent sous silence des gestes qui sont plus caractéristiques des classes sociales dominantes. Par exemple, le fait d'avoir plusieurs voitures, de beaucoup se déplacer, que ce soit en voiture ou en avion, ça on n'en parle jamais. Le fait d'avoir des grandes surfaces à chauffer et à éclairer, on n'en parle jamais. Et donc du coup, on individualise, mais tout en prenant soin de ne pas trop, de ne pas stigmatiser les comportements pourtant les plus émetteurs de gaz à effet de serre. Donc on parle de petits gestes et on parle aussi de gestes compartimentés, c'est-à-dire qu'on va parler des gestes qui concernent l'alimentation, le logement, le transport, les courses. Du coup, en faisant ça, on évite de penser en termes de style de vie, puisque ce qui pose problème, c'est l'ensemble, c'est l'accumulation de toutes ces pratiques culinaires, d'habitat, etc. Et du coup, En faisant ça, ce qu'on rend aussi possible, ce que j'ai pu montrer dans mon travail, c'est que du coup, les classes dominantes qui sont les plus pollueuses peuvent aussi mettre en avant leur bonne conscience éco-citoyenne en disant « Ah oui, alors c'est vrai, j'ai un 4x4 dans le garage, mais ma maison est construite aux dernières normes écolo. » Ou « Bon, c'est vrai, je prends l'avion tous les mois, mais je mange bio. » Voilà. Et donc du coup, des logiques de compensation qui permettent à ceux qui polluent le plus de ne jamais remettre en cause radicalement leur mode de vie, mais de pourtant bénéficier d'une forme de distinction, faire preuve d'une bonne morale éco-citoyenne.
Et pour revenir au rôle de l'État, tu abordes un exemple, l'exemple des éco-quartiers et l'usage de l'expertise, de la statistique dans l'élaboration de projets tels que les éco-quartiers auxquels on se confronte. Et est-ce que tu peux nous parler justement de ces projets-là ?
C'est-à-dire,
par rapport à l'impact d'une concrétisation de politiques publiques, oui, qui mettraient en place des éco-quartiers, alors que la contrepartie, c'est une participation au processus de gentrification, oui, une expulsion des classes dominées, oui, des centres-villes et autres, oui, qui rentrent dans une politique étatique et sa volonté d'invisibiliser ces inégalités.
Oui. Moi, juste un petit point vocabulaire. Là, tu as utilisé le mot gentrification. Qu'est-ce que tu entends par là ?
Bon, gentrification, ça renvoie en fait à des processus d'aménagement des villes et du territoire qui consiste à aménager les villes de telle façon que les loyers augmentent, du coup ne sont plus supportables pour les classes populaires qui se trouvent reléguées à l'extérieur des villes. Et effectivement, l'écologie bourgeoise, en faisant des beaux quartiers avec des espaces verts, avec la mobilité douce, etc., du coup ça entraîne un renchérissement, un coût plus élevé des loyers. Parce que les promoteurs immobiliers disent, voilà, c'est un quartier agréable, le cadre de vie est agréable, quelle qualité, quelle chance de vivre dans ce quartier. Bon, par contre, le prix à payer pour ce quartier fait que la majorité des gens, la grande majorité des classes populaires, hein, rappelez peut-être qu'en France, les ouvriers et les employés, c'est quand même 53% des travailleurs, donc c'est plus de la moitié. Bon, ces gens-là, ils n'ont plus accès à ces quartiers-là, donc ils sont épuisés. C'est ça, les processus de gentrification. Et du coup, pour revenir sur les éco-quartiers, alors c'est intéressant les éco-quartiers parce qu'au départ, il y a quelque chose d'intéressant, il y a quelque chose de structurel là-dedans, il y a quelque chose de politique. C'est on essaye de faire des quartiers qui permettent aux personnes d'avoir des structures, des aménagements de l'espace, du bâtiment, etc., leur permettant de vivre de façon moins pollueuse, quoi. Sauf que ces éco-quartiers, justement, ils sont devenus un peu un instrument de marketing pour les municipalités, qui mettent en avant ça pour mettre en avant justement ce qu'on disait à l'instant, la qualité de vie. Et du coup, ces éco-quartiers, en fait, ils sont hyper homogènes socialement. C'est que la petite bourgeoisie, souvent intellectuelle, qui se retrouve dans ces éco-quartiers-là.
Et rien que dans les pubs pour ces éco-quartiers, ouais, quoi. On voit très bien, ouais, l'image, la famille parfaite, mmh, derrière l'environnement hyper propre, mmh, c'est impressionnant, quoi. L'homme, la femme, les deux, mmh, enfants, un garçon et une fille, tant qu'on, mmh, y est.
Il y a un excellent numéro de la revue Z sur l'écologie à Nantes, c'était un des premiers numéros, où ils ont fait une superbe critique des éco-quartiers à Nantes, avec cette idée qui, à mon avis, résume bien la situation un peu dramatique, où ils disent la seule chose qu'il y a de durable dans les éco-quartiers, c'est les ouvriers qui reviennent réparer les problèmes. Parce que ces éco-quartiers, c'est aussi des éco-quartiers low-tech, cheap plutôt, pas low-tech, ça serait à la limite plutôt pas mal, mais c'est des quartiers, c'est des bâtiments qui sont en fait construits de façon très mauvaise, quoi, enfin, de très mauvaise qualité, avec une main-d'œuvre exploitée, du bâtiment, etc. etc., quoi. Donc, s'il y a eu un détournement de ces éco-quartiers qui, au départ, si on fait l'histoire des éco-quartiers, au départ, il y avait quelque chose de profondément transformateur, quand même, au départ, quoi. C'était vraiment, on essaye de. On individualise pas, c'est ok, c'est une question politique, de choix, de politique locale, quoi. Et ça a été, effectivement, là aussi, complètement dilué.
Justement, par rapport à ça, est-ce que tu peux nous en dire plus sur le rôle de l'État, par rapport aux sondages, aux enquêtes d'opinion, à son expertise et à ses politiques publiques ?
Oui. Du coup, l'État, du coup, lui, va passer donc sous silence avec ses enquêtes d'opinion qui parlent des Français, Il va donc passer sous silence le fait que, ce que l'on disait tout à l'heure, hein, les différents groupes sociaux polluent différemment et que les bourgeois auxquels appartiennent les auteurs de cette propagande, hein, c'est les spécialistes de communication, c'est effectivement ceux qui font des enquêtes d'opinion pour venir justifier le fait que ces campagnes de communication, de sensibilisation, ces logiques partenariales et ces politiques publiques incitatives, tout ça fonctionne ensemble. Hein, c'est une grosse propagande, mais aussi avec des effets sur les lois, sur des effets politiques qui dépolitisent. C'est des politiques qui dépolitisent, c'est des politiques qui mettent la faute sur l'individu et non pas sur le collectif, quoi. Et bien ces enquêtes d'opinion viennent légitimer, en fait, tout ça, viennent dire, bah oui, c'est très bien, il faut le faire parce que c'est ce que les Français veulent et aussi parce que tous les Français polluent de la même façon. Donc c'est vraiment homogénéiser et en même temps aussi rendre consensuel. Ces enquêtes d'opinion sont c'est des baromètres, bah, tous les ans il y a des baromètres, donc c'est de l'argent aussi, hein, derrière, et ça vient en fait nourrir cette cautionner les budgets qui sont investis dans cette morale, dans la construction de cette morale éco-citoyenne, quoi, qui va disséminer très largement. On verra ensuite comment elle est reprise par les journalistes, les scientifiques et un certain nombre d'associations. Mais donc au sein de l'État, c'est donc des agences de com, hein. Alors les agences de com de l'État, c'est en fait ceux aussi qui font les pubs pour les marques de voitures, enfin pour toute l'économie capitaliste, quoi, hein. C'est donc les professionnels du marketing, de la communication, des enquêtes d'opinion, qui sont de plus en plus influents au sein de l'État et qui font valoir cette idéologie de la communication, de cette doxa sensibilisatrice dont on parlait, avec l'idée que il y a des effets forts des messages, de la communication sur ce que pensent et la façon dont agissent les gens. Or, en fait, il n'y a pas d'effet fort du tout. C'est juste qu'ils diffusent une morale qui est la leur et qui parle à ceux qui leur ressemblent. C'est-à-dire que ceux qui vont adhérer à ça, c'est effectivement toutes les classes moyennes, classes moyennes supérieures, qui se retrouvent dans cette morale individuelle et qui vont donc la soutenir et y participer. Morale individuelle dont on a vu qu'elle était très peu menaçante et nocive et nuisible pour les catégories dominantes, les classes dominantes, les classes bourgeoises, qui vont aussi du coup se l'approprier, parce que ça leur donne bonne allure, quoi, d'une certaine façon. Et du coup, ceux qui se retrouvent un peu exclus de tout ce discours sur le climat amorcé, on l'a vu comment, par l'État, bah, c'est les classes populaires, pour celles qui, les classes qui pourtant polluent le moins de par leur mode de vie, quoi.
Et si on se pose la question de pourquoi l'État, comment ça marche et pourquoi l'État fait ça, est-ce qu'on peut aller à parler d'asservissement à des intérêts économiques? Tu parlais avant des entreprises de relations publiques qui travaillent autant pour l'État que pour les entreprises. Est-ce qu'il y a des intérêts économiques et financiers communs? Qui est au service de qui?
Il y en a, mais... Alors, évidemment, il y en a. C'est-à-dire que le ministère de l'Industrie et de l'Économie, en fait, va être très influent et très vigilant sur ce qui va être dit dans cette campagne. Il va toujours veiller à préserver les intérêts de la compétitivité, de l'industrie, etc. Donc, il y a ça. Mais c'est pas là qu'à mon avis, il faut porter la critique. Parce qu'il y a quelque chose de moins visible et de plus fort. C'est que tous ces acteurs, c'est des milliers de personnes, hein, qui, au niveau de l'État, au niveau des collectivités territoriales aussi, vont porter cette morale éco-citoyenne. En fait, tous ces gens-là sont démunis de sens critique. Ils adhèrent au capitalisme, ils adhèrent aux logiques marchandes, ils adhèrent au néolibéralisme, même s'ils veulent socialistes, ou même s'ils peuvent se dire de gauche. Au fond d'eux, ils y adhèrent. Et du coup, ils ne pensent même pas au fait que... Ils trouvent ça très bien d'individualiser, de moraliser. Et du coup, en fait, il n'y a même pas besoin... pour le pouvoir économique, d'intervenir parce que, finalement, tout ce qui est fait ne le contrarie pas vraiment. Et au contraire, au niveau européen, l'environnement, maintenant, c'est complètement intégré dans les stratégies des grands groupes, des firmes multinationales, qui même, d'ailleurs, en font un argument de concurrence, quoi. D'une certaine façon, le problème, il est plutôt le fait qu'il y a un accaparement massif de tous ces instruments d'État, de tous les armes étatiques, par une catégorie sociale qui, du coup, diffuse, en tout cas préserve ses intérêts en ayant la maîtrise, en fait, de l'État.
Et est-ce que c'est aussi une manière dont ta critique, dont ton propos d'anticiper ou d'éviter les glissements qu'on peut observer dès le moment où on parle d'élite, de rapports de pouvoir, d'institutions et d'État, qui seraient des glissements pseudo-obscurantistes ou complotistes, qui se font souvent au détriment d'une critique pertinente.
Oui, enfin, disons que je pense que c'est pas parce que on dénonce les collusions entre les pouvoirs économiques et les pouvoirs politiques qu'on va changer grand-chose. Ça, il y a en ce moment, il y a Élise Lucet, qui est journaliste dominante, qui le fait avec son émission Clash Investigation. Elle a fait une critique très forte d'Engie, hein, donc le principal distributeur de gaz et d'énergie en France, en montrant voilà qu'en fait, il était complètement corrompu, etc. Bon, très bien, mais je pense que ça on rate l'essentiel en faisant ça. C'est pas qu'il faut pas le faire, mais en fait, je pense que le problème est beaucoup plus structurel, il est beaucoup plus large, il s'inscrit beaucoup plus dans la façon dont on forme voilà, ces élites, dans l'état aujourd'hui des rapports de classe, quoi. Je crois que c'est ça. Et du coup, ça oblige à complexifier la critique, mais je crois que ça la rend plus robuste. Parce que, du coup, à la critique de la collusion entre pouvoir économique et pouvoir politique, on va répondre, oui, effectivement, c'est vrai, il faut faire des lois de transparence, on va moraliser tout ça. Mais ils peuvent faire ça sans jamais transformer ce qui est à l'origine de ça, et ça se reproduira après sans cesse, quoi. Donc finalement, je trouve que c'est une critique qui reste à la surface, un peu superficielle, un peu facile, et qui du coup peut aussi, si on pousse la logique jusqu'au bout, un peu dépolitiser, parce qu'on met l'accent sur des collusions, sur des bonnes ententes. C'est important de le faire, mais en fait, ces bonnes ententes, ces collusions, elles s'ancrent et elles naissent en amont, déjà sur les bancs de l'école, quoi, presque, sur les bancs du lycée, et ensuite dans les grandes écoles, les écoles du pouvoir. Et c'est ça qu'il faut aussi, qu'il faudrait détruire, c'est aussi les étoiles du pouvoir, et ça, c'est plus difficile.
Et pour revenir aux différents outils que l'État peut mobiliser pour défendre ses intérêts et les intérêts de des intérêts industriels, par rapport aux statistiques dans tes recherches, tu parles de la cuisine des chiffres, pour dire que en fait les chiffres ne calculent pas mais transforment.
Ouais. C'est vrai que bien souvent, les statistiques d'État, les statistiques publiques qu'on nous ressasse en permanence, sont en fait c'est des constructions. Hein, elles répondent à des conventions. Et là où elles prétendent informer la réalité, en fait, elles véhiculent une vision déformée de cette réalité. Et pour rester sur ce fameux chiffre des 50%, les Français responsables de 50% des émissions de gaz à effet de serre, en fait, je me suis intéressé justement à la façon dont il avait été construit. Et en fait, c'est assez amusant parce que c'est l'addition. Alors, pour essayer d'être simple, les émissions de gaz à effet de serre, on essaye de les, enfin, les dominants, les gouvernants essayent de les mesurer, d'avoir une idée de leur volume. Et pour ça, ils additionnent les émissions de gaz à effet de serre dans différents secteurs, le secteur du transport, le secteur de l'habitat, le secteur industriel, l'agriculture, les déchets. Et pour dire ce 50%, en fait, c'est juste l'addition du secteur des émissions dans le secteur des transports, des émissions dans le secteur de l'habitat et dans le secteur du déchet. Ils additionnent ces trois secteurs, ça fait 50%. Et bien, ces trois secteurs, transport, habitat, déchet, on a dit, c'est les Français. Sauf que dans ces secteurs-là, il y a aussi tout le transport de marchandises, par exemple. Il y a aussi les bâtiments des entreprises ou je sais pas, des écoles ou des mairies, etc. Donc, on a aggloméré des choses qui n'avaient rien à voir pour les réduire à c'est les Français. Donc, finalement, ce chiffre, c'est le résultat d'une forme d'équation magique qui est complètement inconsistante, il y a un artifice derrière statistique, mais qui a évidemment été passé sous silence.
Est-ce qu'on a là une forme d'outil qu'on pourrait essayer de partager au travers ces différentes chroniques qui aborderont différents acteurs, ou plus simplement, qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour se prémunir pratiquement intellectuellement contre les politiques étatiques?
Ne pas trier ses déchets. Ah pardon, j'essaye de répondre immédiatement, moi. Ça m'a inspiré ça.
Non, mais pour rebondir sur ce que tu dis, peut-être c'est quelque chose sur laquelle il faudra revenir. Souvent, c'est vrai qu'on essaye de mettre le plus possible, et des fois ça peut nous rendre malade de ne pas être en cohérence, de ne pas mettre nos comportements, nos choix de vie en cohérence avec nos idées. Parce que justement, cette morale néolibérale, en fait, elle porte cette contradiction-là, et en fait, on la réintègre. En fait, je pense que ce qu'il faut surtout se dire, c'est que tant qu'on continue à vivre dans, même si on essaie de s'en extirper, mais quand on a des liens avec l'organisation sociale dominante, l'ordre établi, etc., puisque cet ordre-là contient est en contradiction avec la morale qu'il véhicule, bah, du coup, nous-mêmes, on est pris dans cette morale d'une certaine façon. C'est-à-dire que, tandis que si l'ordre social était transformé, si, par exemple, le temps de travail était drastiquement réduit, etc., on aurait beaucoup plus de facilité à se comporter en cohérence avec notre éthique ou nos exigences. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer de faire ce qu'on peut, mais je pense que ça veut dire qu'il y a un moment, il faut, aussi, en fait, il faut se dire « Ouais, mais là, si je ne peux pas, ce n'est pas de ma faute, c'est de la faute de l'État. » Et du coup, ça doit créer aussi de l'indignation, de la colère et créer de la politisation. Enfin, on pourra peut-être y revenir, mais parce que cette morale individuelle, cette éco-citoyenneté, en fait, elle s'inscrit dans une philosophie réformiste qui, à mon avis, grignote de façon très efficace et se répand de façon très efficace dans tous les mouvements écologistes. Et, sauf que le réformisme, on y reviendra, a pour effet de faire perdurer le système, quoi. En fait, parce que le réformisme éloigne d'une perspective révolutionnaire. Mais on peut souvent, on rétorque à ça, oui, mais la révolution, on n'y est pas. Donc, en attendant, il faut bien faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Voilà. Donc, du coup, ce que je peux faire, c'est moi aussi faire ma part du colibri pour évoquer cet espace de colibri où le réformisme est une idéologie dominante. Sauf que je pense qu'on peut faire autre chose entre-temps. On peut créer de la politisation. On peut créer de la conflictualité. Et je pense qu'aujourd'hui, la pratique révolutionnaire, dans une situation qui n'est pas révolutionnaire, ça consiste à arrêter de vouloir un peu se battre parce qu'on n'est pas parfait, on n'est pas 100% écolo, on n'est pas un, mais plutôt de se dire, en fait, si j'y arrive pas, si c'est trop difficile pour moi comme pour beaucoup d'autres, c'est peut-être qu'il y a un problème au niveau de l'État, au niveau de la façon dont la vie collective est organisée, de la façon dont on nous impose d'aller vite, de faire beaucoup de choses, de remplir nos journées, de tous ces modes de vie, ces valeurs dominantes, c'est ça qu'il faut critiquer. Et en fait, cette contradiction qu'on a souvent, je pense, au lieu de s'en mordre les doigts dans un côté très judéo-chrétien, je pense qu'il faudrait travailler à politiser cette contradiction, à en faire pour réarmer la critique de l'État et des classes dominantes.
Il nous reste plus que 5 minutes, là, pour cette fois-ci, ce qui met en évidence qu'on va avoir besoin d'autres chroniques sur ce sujet, je crois, parce que...
Ouais, il va falloir parler des journalistes ensuite, ça sera important.
Oui, c'est ça. On sent que là, il y a d'autres acteurs qui commencent à pointer leur nez, mais qu'en vrai, ça donne envie de vraiment creuser sur ces différents acteurs. Go, ça pourrait être pour une prochaine fois. Est-ce que là, il y a une autre question ou une espèce de résumé ?
Une conclusion temporaire.
Une conclusion, ouais, super.
Et tu me reprends si... En gros, l'idée, c'était de voir en quoi l'État responsabilise les individus pour éviter d'avoir à se questionner, en fait, sur ses fondements, sur son fonctionnement, et éviter d'avoir à se remettre en question, parce que c'est la contradiction qui guide tes recherches, c'est que lutter réellement contre les causes des dérèglements climatiques et ses conséquences, ça le pousserait à aller à l'encontre de ses intérêts et à l'encontre des intérêts des puissances industrielles qui cohabitent, en fait, dans notre société. L'idée de l'acteur étatique, c'était d'essayer de voir en quoi les mesures étatiques, en fait, se focalisent sur les comportements et passent sous silence ce qui a engendré ces comportements, ce qui participe à dépolitiser les enjeux climatiques tout en s'évitant une discussion sur notre société industrielle.
Et juste pour une précision, mais ça c'est peut-être un sujet de débat pour la prochaine fois, à mon avis c'est pas seulement les puissances et les sociétés industrielles, c'est vraiment capitaliste, parce que je pense que le capitalisme tel qu'il évolue va être de moins en moins industriel, il n'en sera pas pour autant moins nocif pour l'environnement. Et souvent quand on porte une critique contre le capitalisme, on aurait tort. Oui, c'est en fait aussi le productivisme et l'industrie, le côté industriel. Mais on voit aussi avec les dégâts que font pour l'environnement les nouvelles technologies, le numérique, etc., qui n'est pas quelque chose forcément d'industriel ou pas perçu comme tel, qu'au-delà de l'industriel, c'est aussi le capitalisme dans ses modes de fonctionnement, de production, etc. Mais parce que le capitalisme, c'est aussi une idéologie un peu totale qui englobe tous nos modes de vie, quoi, qui nous dit que même nos sensibilités, même ce qu'on doit ressentir, nos émotions sont marchandisées, quoi. Et du coup, critiquer le capitalisme, c'est critiquer tout ça, là où l'industriel pourrait réduire à une dimension économique.
Moi, j'aurais l'impression aussi d'y rajouter le colonialisme, largement, parce que j'ai l'impression aussi que dans ces questions environnementales, évidemment que sur... le territoire français, européen, américain, il y a de moins en moins de trucs qui se voient, alors que les extractions, elles se font largement dans les pays colonisés encore aujourd'hui.
Carrément.
Voilà.
Carrément. Merci.
Merci beaucoup. Hein. C'était chouette.
Avec plaisir.
À très bientôt.
Yes.